Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle émission de nos grands entretiens. On ne mesure pas, je pense, chers auditeurs, la liesse qui s'empara du peuple français à l'annonce de l'armistice le 11 novembre 1918. Tout semble terminé enfin, apaisé, l'ère de la paix et de la stabilité semble enfin arriver, mais ce n'est qu'une illusion. Cette joie nationale ne semble pas atteindre Clémenceau, qui lui reste amer. Il déclare ce 11 novembre « Nous avons gagné la guerre, il nous faut maintenant gagner la paix et ce sera plus dur encore. S'entendre avec les alliés est alors plus difficile encore que d'imposer aux vaincus ces conditions. » Quelle puissance alors a véritablement décidé le traité de Versailles et quel État, quel pays en a été la première victime? Comment repenser l'Allemagne après cette défaite? Combien de temps les Français ont-ils mis à digérer cette victoire, cette paix? Nous recevons aujourd'hui Jean-Yves Le Naour, qui est historien de la Grande Guerre, qui vient nous parler de son dernier livre sorti aux éditions Perrin, 1919-1921, sortir de la guerre. Bonjour Jean-Yves Le Naour.
Bonjour.
Jean-Yves Le Naour, le titre de votre ouvrage, c'est Sortir de la guerre 1919-1921. Une chronologie courte certes, mais c'est néanmoins 2 ans. Il a fallu 2 ans aux Français, à l'État français, pour sortir de la guerre, faire la paix définitivement.
Eh bien, pas du tout. Il a fallu sans doute beaucoup plus de temps. Je pense que les Français ont mis 20 ans pour sortir de la guerre. Il a fallu attendre 1944 pour qu'il y ait un autre après-guerre, pour que la France cesse de regarder en arrière, qu'elle cesse de d'entrer dans l'avenir à reculons, comme disait Paul Valéry au début des années 20. C'est-à-dire que la France, en 1919, est écrasée par le poids des morts. Et ce sera le cas pendant toute l'entre-deux-guerres. C'est le temps, l'entre-deux-guerres, où les monuments aux morts sont neufs. C'est le temps où toute la communauté du village se réunit tous les 11 novembre autour du monument et puis on répète comme ça « mort pour la France », les enfants qui sont là répètent « mort pour la France », on lit la longue liste, hein, la longue litanie des noms sur les monuments morts. Donc il y a c'est une situation d'hypermnésie, on ne peut pas tourner la page comme ça. Et simplement... 1921, pourquoi? J'ai voulu des frontières politiques, j'ai voulu comment le monde, plus que la France finalement, est sorti de la violence, puisque la guerre continue après la guerre, et on va dire qu'en 21-22, j'aurais pu dire 22, puisque la guerre gréco-turque, ça se termine en 1922, et c'est aussi un leg de la guerre, les armes se taisent globalement en Europe en 1921, donc on peut dire qu'à partir de ce moment-là, on entre dans une autre période. Mais vraiment pour les Français, on va dire, si on veut culturellement être dans la guerre face à l'Allemagne, quand en est-on sorti? Peut-être 1923. Vous savez, avec l'intervention dans la Ruhr, c'est la dernière confrontation directe entre la France et l'Allemagne. Et en 1924, là, cette fois-ci, on en sort, on passe au traité. C'est l'évacuation de la Ruhr, c'est le plan d'Auves sur les réparations. Et puis on arrive à Locarno en 1925. Donc il y a la reconnaissance de l'Allemagne qui reconnaît les frontières avec la France. Donc là, on est dans une autre période. On commence à désarmer culturellement et on commence à sortir de la guerre dans les esprits, à espérer que la paix sera pérenne. Mais en réalité, effectivement, c'est une illusion.
Alors le Clémenceau, lui, il est inquiet de l'armistice. J'en ai parlé dans l'introduction.
Un des seuls.
Et alors pourquoi cette inquiétude qui a l'air quand même très vivace? On dit même qu'il aurait pleuré face à sa fille qui elle se réjouit de la victoire et que lui reconnaît qu'il est malheureux.
Mais c'est ça, c'est le soir du 11 novembre. Il assiste à, comment dire, dans un balcon d'un grand hôtel sur la place de l'Opéra. Et il assiste à cette Marseillaise chantée par une cantatrice, Marchenal, et il pleure effectivement. Et sa fille, vous venez de le dire, lui dit « Mais enfin, papa, tu n'es pas heureux ?» Et il dit « Non, je ne le suis pas. » Alors, il ne va pas plus loin, il n'explicite pas sa pensée, il dit non, je ne le suis pas. Et à un autre moment, on l'entend marmonner, tout ça n'aura peut-être servi à rien. Tout ça n'aura peut-être servi à rien. C'est incroyable, parce que la France vient de gagner la guerre. Et tout à l'heure, en début d'après-midi, il était à la Chambre des députés, il était au Sénat, et d'abord à la Chambre des députés. C'était l'ovation, tous les députés étaient debout. Honneur aux soldats français, ces soldats qui resteront toujours les soldats de l'idéal, etc. Hier, soldats d'odieux, aujourd'hui, soldats de la liberté seront toujours les soldats de l'idéal, etc. Donc il y a une incroyable ferveur dans cette journée du 11 novembre et Clémenceau, lui, reste les deux pieds sur terre en se disant, et je vous l'avais répété, vous l'avez dit dans votre introduction, il sait que maintenant il va falloir se mettre autour d'une table. Et c'est une chose de gagner la guerre, mais c'en est une autre de gagner la paix. Parce que pour se mettre autour de la table, la France n'a pas gagné la guerre toute seule. Il faudra donc débattre avec les alliés. Et les États-Unis et la Grande-Bretagne en priorité, ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs que la France. Et ils n'ont pas du tout non seulement les mêmes objectifs, mais les mêmes craintes, ils n'ont pas la même frontière. Les États-Unis, il y a l'Atlantique entre l'Europe et eux. Et la Grande-Bretagne, il y a la Manche. Ils n'ont pas la même inquiétude vis-à-vis de l'Allemagne. La France, elle sait une chose, c'est que l'Allemagne, c'est son puissant voisin, qui est bien plus riche, bien plus industrieux, bien plus peuplé qu'elle. La France, c'est 40 millions d'habitants, et c'est pas la première économie d'Europe. L'Allemagne, c'est la première économie d'Europe et c'est 65 millions d'habitants. Il faut à tout prix assurer la sécurité de la France pour que la guerre ne revienne pas. Voilà, ça c'est l'objectif français en fait. Ça, depuis 14, on peut dire qu'il y a surtout depuis 17, trois choses que veut la France, c'est restitution, réparation, garantie. Ça tient en un slogan. Restitution, c'est l'Alsace-Lorraine. Réparation, parce que il y a des destructions sur le sol français, il faudra trouver de l'argent pour les relever. Et bon, en gros, qui casse paye. Ce principe, l'Allemagne l'avait admis, on pourra peut-être en parler, des réparations. Et puis, enfin, garantie. Et ça, c'est le gros morceau. Garantie de sécurité pour que la guerre ne revienne pas. Et Clémenceau, lui, il va tout subordonner. Il a une idée, c'est rester allié avec les États-Unis et avec la Grande-Bretagne. Même mettre sur pied une alliance militaire. Isoler l'Allemagne et l'Allemagne comprendra que si un jour elle veut chercher la revanche, elle aura à se frotter à la Grande-Bretagne et aux États-Unis et pas seulement à la France. Donc tout céder au maintien de l'alliance franco-britannique et franco-américaine et même la renforcer. Alors ça, c'est difficile. Ça va être difficile. Évidemment, il va falloir négocier, il va falloir faire des compromis.
Est-ce que la Grande-Bretagne et les États-Unis ont encore peur de l'Allemagne, sont encore inquiets sur le dénouement de la guerre ou finalement c'est Clémenceau et la France qui a le plus de risques d'être perdants, notamment avec le traité de Versailles?
Alors les États-Unis sont plus du tout inquiets. Non, ils ont gagné la guerre. Ils sont entrés en guerre. Bon, il y a plein de raisons. Bon, on pourrait débattre sur l'entrée en guerre des Américains, mais enfin, il y a aussi cette raison fondamentale, c'est qu'ils ont prêté énormément à la France et à la Grande-Bretagne. À un moment donné, il fallait pas qu'ils perdent la guerre, sinon ils retrouveraient pas leur argent. Donc là, ils sont tranquilles, ils retrouveront leur argent, et puis ils vont remodeler la carte du monde, etc. En fonction des grands principes du président Wilson, des grands principes wilsoniens, la SDN, cour d'arbitrage, liberté des mers, le droit des peuples, etc., pour qu'il n'y ait plus jamais la guerre. Mais derrière, il y a aussi une idée, c'est la liberté du commerce américain, c'est aussi les intérêts américains, etc., que Wilson a en vue. La Grande-Bretagne, elle aussi, aucune inquiétude. Elle a obtenu tout ce qu'elle voulait. L'Allemagne lui contestait son rôle de numéro un et voulait sa place au soleil. Elle voulait une grande flotte militaire, une grande flotte commerciale, et elle voulait donc des colonies, elle voulait des points d'appui, elle voulait devenir une grande puissance mondiale, et pas seulement une grande puissance européenne. Et c'est donc la confrontation, la guerre 14-18, c'est aussi la confrontation entre Londres et Berlin sur cette question. Eh bien, c'est terminé, la flotte militaire a été donnée à la Grande-Bretagne, enfin elle est captive en Écosse, la veille de la signature du traité de Versailles, elle préféra se saborder plutôt que d'être partagée entre alliés ou confiée à la Grande-Bretagne, mais actuellement elle est captive, donc il n'y a plus à avoir peur de l'Allemagne sur l'eau. Et puis sa flotte commerciale, c'est un petit peu la même chose, hein, d'ailleurs il faudra qu'elle cède un certain nombre de bateaux, et elle a perdu ses colonies, voilà, qui seront partagées entre la France et la Grande-Bretagne. Donc ça y est, l'Allemagne ne peut plus avoir d'ambition mondiale, ses ambitions sont purement européennes. Donc pour la Grande-Bretagne, c'est une affaire réglée. Le problème pour la Grande-Bretagne, c'est la France. Ça paraît complètement fou, hein, d'entendre ça. La France, qui a 40 millions d'habitants, qui est le pays martyr dans cette guerre, qui a des destructions sur son sol, qui a 1,5 million de morts. Et pour la Grande-Bretagne, c'est elle le problème. Parce que, vous savez, vous avez cette fameuse théorie de l'équilibre européen qui a toujours conduit la diplomatie britannique jusque-là. Et c'est une stratégie qui était peut-être opérante au 19e siècle, mais qui montre son aveuglement au début du 20e siècle. Qui ne voit pas que l'Allemagne risque de préparer sa revanche. Non, son problème, c'est la France est en situation de force, d'hégémonie sur le continent européen. C'est vrai qu'elle elle forme les armées tchèques, polonaises, elle les conseille, elle établit des alliances diplomatiques, commerciales avec la Pologne, avec la Tchécoslovaquie, avec la Yougoslavie, avec la Roumanie, etc. Et donc, oh là là, mais elle est très... C'est Napoléon qui est de retour. Et je vous assure que le mot Napoléon revient dans la presse britannique. Il y a vraiment une lecture peut-être francophobe, peut-être une lecture nationaliste britannique, qui n'a pas compris que la France n'était plus celle de Napoléon. La France a été terrorisée. En 1919, 1920, 1921, la France est terrorisée par l'éventuel retour de la guerre et elle est obsédée par l'idée comment museler l'Allemagne, comment la contrôler. Et la Grande-Bretagne ne comprend pas cela, elle veut bien la comprendre, mais elle croit que toutes les mesures de sécurité que la France prendront renforceront, au contraire, la volonté de l'Allemagne de se dégager de cette tutelle et donc de préparer une nouvelle guerre. Donc, elle fait peser sur la France la responsabilité, en fait, du nationalisme allemand, alors qu'il n'y avait absolument pas besoin de cela. Et elle abandonne la France. Elle ne veut pas trop abaisser l'Allemagne parce qu'elle a peur de renforcer la France. Voilà, au nom de l'équilibre européen. Voilà, l'équilibre européen, toujours divisé pour mieux régner. Il ne doit y avoir aucune puissance en situation hégémonique en Europe, à part bien sûr, à part elle, la Grande-Bretagne.
Clémenceau est donc en désaccord avec ses alliés et en même temps à l'intérieur du gouvernement français et en France, est-ce que tout le monde partage ses inquiétudes et est-ce que tout le monde a les mêmes ambitions pour l'Allemagne et pour la France?
Alors, dans le gouvernement, on va dire oui, dans le gouvernement, tout le monde partage l'avis de Clémenceau à peu près, parce que le gouvernement Clémenceau, c'est Clémenceau. Hein, il y avait une caricature en novembre 1917, quand Clémenceau a formé son gouvernement, qui montrait Clémenceau au travail, Clémenceau à la justice, Clémenceau... il s'était entouré, justement, d'hommes pas médiocres, mais de second couteau, afin de ne pas être contesté, d'être le chef. Il n'a pas voulu de grandes figures comme des Briand, des Bartoux, des Poincaré et tout. Non. Hein. Donc c'est lui le chef, à poigne, difficile de le contester. En revanche, dans l'opinion, tout le monde ne partage pas effectivement ses idées. Il y a à l'extrême droite des nationalistes, Action Française par exemple, qui voudraient le démembrement de l'Allemagne. Un fort parti en France qui souhaiterait le démembrement de l'Allemagne, qui souhaiterait peut-être même des annexions. Ça, c'est Maurice Barrès qui rêve vrai d'annexer la région du Rhin, la Rhénanie. Absolument hors de question pour Clémenceau, qui a bien compris que, d'abord, les Américains et les Britanniques ne laisseraient pas faire, ils n'accepteraient pas, et ils vont jamais accepter de créer une Alsace-Lorraine à l'envers, c'est n'importe quoi. Et puis, de toute façon, c'est contraire aux principes français. Donc, on peut pas conquérir, on n'a pas fait une guerre pour faire des annexions. On va pas conquérir des territoires allemands avec des populations allemandes qui parlent l'allemand et qui voteront pour des députés allemands qui contesteront l'annexion. Enfin bref, les principes de liberté, d'égalité, la France serait dans une situation impossible. Donc, ces thèmes de l'annexion, contraire à ce que l'on a pu lire, dire, parfois même dans des ouvrages d'histoire, jamais la France n'a réclamé l'annexion de la Rhénanie. Jamais, jamais, jamais. En revanche, et ça c'est plutôt la politique de Clémenceau, c'est-à-dire donc là c'est le de la droite à jusqu'au parti radical, et encore on pourrait même pousser la corne un petit peu jusqu'au socialiste, mais faire de la Rhénanie une région autonome, des États indépendants, ou de nouveaux États au sein d'une Allemagne fédérale, pourquoi pas ? Ça, l'idée d'en faire un tampon, Ça, c'est effectivement quelque chose qui irrigue la pensée française dans l'opinion publique. Et puis enfin, à gauche, à l'extrême gauche, il y a chez les socialistes, qui sont très divisés, hein, parce que bientôt le Parti Socialiste va exploser entre les socialistes et les communistes en 1920, eh bien, il y a la volonté d'une paix des peuples. N'oublions pas qu'en Allemagne, au même moment, il y a eu la révolution, il y a un gouvernement social-démocrate, mais alors, on en parlera peut-être, c'est une catastrophe sur le plan historique, qui porte une lourde responsabilité dans les événements qui vont suivre, dans le refus de la paix. Et donc cette frange à gauche, oui, réclame effectivement une paix de justice, une paix qui soit pas une paix autoritaire, qui ne sème pas des petits cailloux pour la haine future. Voilà. Donc voilà ce que c'est que l'opinion française, mais très largement Clémenceau a le soutien de l'opinion publique. C'est le père la victoire, faut pas l'oublier. C'est comme ça qu'on le surnomme. Il y a une popularité de Clémenceau qui est énorme. D'ailleurs, à un moment donné, en février 1919, il est victime d'une tentative d'assassinat et il reçoit quand même une balle dans le corps à 4 cm de la colonne vertébrale. Il s'en remet très bien. Une semaine après, il est déjà au travail. Ça renforce encore plus. Il est increvable, ce Clémenceau. Increvable. Ah, c'est l'admiration des Français.
Et ce qui fait tout pour déplaire Foch, qui voudrait peut-être avoir les projecteurs sur lui et avoir un peu plus de poids dans le traité de Versailles. Et qu'est-ce qu'il reproche à Clémenceau
Ah oui, entre Foch et Clémenceau, on ne s'entend pas. Et ça, les Français n'en sauront pas grand-chose. Ils n'en sauront pas grand-chose. Il faut pas. C'est le moment des négociations de paix à Paris, puis le traité de Versailles. C'est pas le moment d'étaler sur la table les dissensions entre Français quand on est en train de discuter avec nos alliés. Ils le découvriront, les Français, bien après. En 1929. Après la mort de Foch, paraîtra le mémorial de Foch d'un journaliste qui s'appelle Raymond Récouli, qui a rencontré Foch à plusieurs reprises et qui va faire état publiquement, effectivement, des dissensions entre Foch et Clémenceau. Jusque-là, c'était vraiment peu connu par les Français. Et Clémenceau va réagir en publiant Grandeur et misère d'une victoire, où il va régler son compte à Foch, etc. Alors, quelle est la nature de cette division qui est très forte pendant l'année 1919? C'est que Foch, il est persuadé qu'il a gagné la guerre et que maintenant, comme c'est un militaire, il doit s'effacer devant les politiques. D'ailleurs, Clémenceau lui fait bien sentir. Hein, il refuse de l'inviter dans certaines réunions. Il lui demande de sortir à d'autres réunions, etc. Donc, il lui montre la prééminence de la toge sur les armes. Alors ça, Foch, il a du mal à accepter. Il aurait voulu être membre de plein droit de parmi les plénipotentiaires les délégués français pour la conférence de la paix. Donc déjà, ça, il en a un peu sur donc des questions d'orgueil, bien sûr, des questions d'ego, ça compte. Hein. Il y a des hommes, des femmes, l'histoire est faite comme ça. Donc, ces questions d'orgueil, elles comptent aussi. Mais il pense qu'il a gagné la guerre et que Clémenceau est en train de perdre la paix. Il est persuadé que Clémenceau est trop cède trop à Wilson et à Lloyd George, et Foch veut absolument la ligne du Rhin. Alors au départ, ils sont tous les deux d'accord. Ah oui, créer une Rhénanie indépendante. Alors Foch ne cracherait pas sur une Rhénanie annexée, mais bon, créer une Rhénanie indépendante. Voilà, avoir et si on peut pas avoir une Rhénanie indépendante avec occupation perpétuelle, eh bien, ou avec traité d'alliance commerciale, union douanière, eh bien, occupons de façon perpétuelle la rive gauche du Rhin. Occupons, mais alors de façon perpétuelle, parce que le Rhin doit être notre frontière pour éviter une attaque brusquée en Belgique ou sur la France. Mais c'est pas possible une occupation perpétuelle, c'est absolument impossible. Ça veut dire un conflit perpétuel en franco-allemand. Clémenceau, lui, il va militer pour pour une occupation la plus pérenne possible. Ce qu'il va obtenir, c'est jusqu'en 1935. C'est déjà beaucoup d'ailleurs. Jusqu'en 1935, il y aura trois phases de d'évacuation. Il n'obtient pas plus. Il n'obtient pas l'occupation pérenne. Il n'obtient pas la formation d'un État indépendant. Parce que Lloyd George et Wilson disent, mais attendez, c'est des Allemands. Pourquoi on va créer un État indépendant, un État autonome, un État tampon? Hors de question, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors bien sûr, il y avait des autonomistes, il y avait même des indépendantistes en Rhénanie, et ils étaient même puissants en 1919, mais ils semblaient un peu trop liés à la France, et la France, pour les Anglais et les Américains, donnait l'impression de les manipuler, ce qui n'était pas le cas. Bien sûr, la France, elle les encourageait, mais elle ne les manipulait pas, et Elle a peut-être raté le coche. Elle a peut-être raté le coche. Oui, oui. Elle a cru que le temps fonctionnait pour elle, puisque vu qu'elle était là pour 15 ans, de 1920 jusqu'à 1935, eh bien, elle aurait le temps d'encourager les séparatistes. Et puis, à un moment donné, il y aurait peut-être un référendum, etc., etc., qui prononcerait l'indépendance, bref, ou l'autonomie. Mais ça ne s'est jamais produit. Ça a été tout le contraire, en fait. C'est en 19 que l'indépendantisme, l'autonomisme est très fort. Et puis ensuite, il régresse. Oui. C'était des Allemands, voilà. C'était des Allemands. C'est normal qu'ils veuillent rester dans l'Allemagne.
Est-ce que la France a perdu notamment du fait de des négociations, dès le début des négociations du traité de Versailles ? Est-ce qu'on peut dire qu'elle s'y est mal pris, qu'elle a bâclé ses négociations ou qu'elle s'est retrouvée perdante du fait d'un contexte postérieur au traité de Versailles ?
Alors c'est un peu les deux, mais en revanche il n'y a pas de paix bâclée. Alors, on lit cela souvent, une paix bâclée, Versailles, etc. Les accusations contre Clémenceau, non, il y a des commissions et des sous-commissions et des travaux. Il y a qu'à regarder les PV, mais toutes les questions sont abordées. Il y a des experts, on a des centaines d'experts. Je crois que Wilson vient avec 400 experts. Enfin bon, des géographes, des historiens, etc. Parce que pour refaire la carte de l'Europe selon les nationalités, c'est pas évident. En Europe centrale, Europe orientale, etc.
Surtout en ce moment où les nationalismes éclatent et que les
frontières... Ah oui, c'est ça. C'est que on a aussi l'impression, a posteriori, qu'il y a quatre grands autour de la table, ou trois grands, Lloyd George, Clemenceau et Wilson, et Orlando l'Italien, quatre si vous voulez, les Big Four ou les trois grands, et qui décident de tout. Mais vous avez raison de dire qu'il y a aussi tout un tas de les petits peuples qui reprennent leur indépendance, la Tchécoslovaquie qui apparaît, la Pologne qui ressuscite, etc., qui ont des ambitions propres, et on les contrôle pas toujours. Et tout d'un coup, voilà la Pologne qui décide de faire la guerre, d'entrer en guerre en Ukraine, d'entrer en guerre contre la Russie, d'avaler un morceau de la Lituanie. Ah, on se retrouve à Paris, on est aussi spectateur de ça. Faut pas croire que les trois grands, ils possèdent absolument tout l'avenir du monde dans les mains. Ils sont pas toujours obéis. Oui. Où ils ne veulent pas toujours se faire obéir aussi. C'est la France a tenté de par exemple de protéger la Pologne parce qu'elle voulait s'en faire une alliée de revers contre l'Allemagne. Donc pour revenir à votre question, les négociations elles ont pas été bâclées. On est allé au fond des choses le plus souvent possible. On a tenté de ce sont des hommes de bonne volonté. Ils cherchent à éviter les problèmes futurs, hein. Donc ils arrivent à Paris. Il y a un expert qui s'appelle Harold Nicholson. Nous étions là comme pour remplir une mission divine, écrit-il dans ses mémoires. Une mission divine, établir la paix, mais la paix pas pour 5 ans, pour 10 ans, une paix qui soit juste et qui soit pérenne. Et effectivement, il y a des mauvaises fées, des sorcières qui se sont penchées sur le berceau pendant les négociations, et puis il y a un contexte qui leur a échappé. Et puis le fait que les États-Unis n'ont pas ratifié le traité de Versailles, donc ils ne participent pas à la SDN, qui ne participent pas donc à cet ordre, qu'ils ont pourtant contribué à faire naître, ça a considérablement foutu tout par terre, pour la sécurité de la France, par exemple. Si Clémenceau a lâché la Rhénanie, hein, parce que il a été sur la position de Foch pendant longtemps, et il avait dit « je mets en boule sur la Rhénanie, je ne lâche plus le morceau ». Eh bien, on était en situation de crise en mars-avril. On était en situation de crise. Wilson pensait même claquer la porte et revenir aux États-Unis. Il avait commandé son bateau à Brest, que son bateau revienne, il allait prendre le train et partir. La situation était vraiment bloquée. Et puis, voilà que il y a cette proposition qui est faite par Lloyd George. Et si on propose une alliance militaire à la France, il va voir Wilson. Allez, on lui propose une alliance militaire. C'est incroyable parce que la Grande-Bretagne ne s'est jamais alliée militairement avec qui que ce soit. C'est le splendide isolement, hein, diplomatique. L'entente cordiale, c'est pas une alliance militaire. C'est une entente cordiale. On a réglé les problèmes coloniaux. Maintenant, on est amis, mais c'est pas une alliance militaire. Et les États-Unis, c'est la même chose. Avant 14, c'est l'isolationnisme. S'allier, et puis en plus s'allier à une puissance européenne. Non, c'est... Et alors, ils vont décider, effectivement, pour rassurer la France, pour dire, allez, tu lâches la Rhénanie, Clémenceau, et en échange, on t'offre ce que tu rêves, l'alliance militaire dont tu rêves, hein, une garantie contre un retour éventuel de la puissance allemande. Et évidemment, Clémenceau, il va dire oui. Sauf que ce traité militaire qui a été qui est signé le même jour que le traité de Versailles, hein, eh bien, il ne sera jamais ratifié. Il sera jamais ratifié parce que à partir du moment où les États-Unis, eh bien, ne ratifient pas le traité de Versailles, ils dénoncent en même temps l'accord militaire. Et la France, qui a fait des concessions pour sa sécurité en échange d'un pacte militaire, eh bien, qu'est-ce qu'elle a ? Elle a rien parce que les États-Unis disent ah bon, on n'a pas ratifié. Et alors à ce moment-là, la Grande-Bretagne dit ah mais ma parole était conditionnée à l'acceptation des États-Unis, puisque les États-Unis ne veulent pas l'alliance militaire, ben moi je reprends ma parole et je ne la signe pas. La France se retrouve toute seule face à un voisin qui est plus riche, qui est plus peuplé, qui pour le moment a une petite armée, parce que le traité de Versailles lui réduit son armée à 100 000 hommes, mais demain.
Et alors les Français, du côté des Français, comment ils considèrent les États-Unis et Wilson ? Vous utilisez le terme Messie,
ah oui,
pour parler de Wilson, du Christ,
oui,
même.
Ah mais c'est pas moi qui l'invente, c'est simplement la presse de l'époque, c'est fou, il y a une Wilson mania. Wilson, c'est le nouveau Moïse. D'ailleurs, Clémenceau s'en moque. Hein. Il dira Moïse nous a apporté les 10 commandements. Wilson, lui, nous en apporte 14. Et puis Wilson, il inaugure les réunions le premier jour. Il pose la Bible devant lui, à l'américaine. Il a l'idée. N'oublions pas que c'est un fils de pasteur, petit-fils de pasteur presbytérien, qu'il est persuadé que les États-Unis ont une mission à accomplir dans le monde et que lui-même a une mission à accomplir dans le monde. Qu'il est l'homme élu de la nation élue, prédestiné.
Face à Clémenceau, qui n'est pas particulièrement
favorable
à l'inspiration divine.
Ah non, mais là, il faut voir les mémoires de Lloyd George. Quand il y a Wilson qui pose la Bible, il dit qu'il voit Clémenceau qui ouvre de grands yeux. Et quand il parle de Dieu, parce que Wilson, évidemment, les Américains parlent de Dieu, etc., God we trust, et bien même jusque sur le dollar, et bien il voit Clémenceau qui lève les yeux au ciel, ou qui tourne les yeux comme ça sur l'assistance, et Wilson est du genre de dire et le voilà, et le revoilà, et voilà, il recommence, voilà.
Alors qu'il avait cherché à s'en débarrasser, bon, toutes les fois sur la séparation, et il se retrouve finalement à devoir négocier avec des gens qui invoquent Dieu.
Oui, c'est ça, qui invoquent Dieu. Alors, pas Lloyd George, hein. Lloyd George est un bon réal politique. Lui, il rigole de voir ça. Il dit dans ses mémoires, j'avais l'impression de discuter avec Napoléon et Jésus-Christ. Voilà. Et c'est vrai qu'on attend beaucoup. Pourquoi Jésus-Christ? Parce qu'on attend beaucoup de Wilson. C'est l'homme qui est entré en guerre, soi-disant pour de grandes idées. Le refaire la carte de l'Europe selon le principe des États-nations. Une SDN, ça c'était le programme des socialistes depuis des années et des années. Une cour d'arbitrage permanente des nations. On ne se fera plus jamais la guerre parce que il y aura une diplomatie ouverte. On discutera de tout dans une assemblée des nations. Ça sera la fameuse SDN. Sauf que cette SDN sera sans pouvoir. Ça c'est le grand drame. Et encore une fois, c'est pas la faute de la France. Ça. La France avait un projet de SDN qui était bien plus efficace que le projet américain, qui était un projet de SDN gendarme. Mais Wilson l'a torpillé parce que Wilson n'avait pas une majorité pour faire valider le traité de Versailles et ce projet de SDN. Il avait des républicains qui avaient gagné les élections en novembre et il fallait tenir compte de l'avis des républicains. Lui était démocrate. Et donc, il a tout fait pour que la SDN soit un devenir plus qu'une réalité. Et donc, il a vidé de son sens, de son autorité, la SDN, et ça n'a été qu'un machin.
Un traité donc qui isole la France, qui se retrouve un petit peu noyée entre des puissances qui sont en train de se refaire et la France qui a quand même beaucoup perdu. Et en plus, au-delà de ses frontières, la guerre se continue.
Oui.
Elle n'est pas terminée dans de nombreux pays, on l'a évoqué. Comment est-ce que Clémenceau voit ces conflits ? Est-ce qu'il cherche à y prendre part, à les juger ? À s'y investir, ou il cherche à consolider déjà le peu de puissance que la France possède encore?
Ah ben, écoutez, consolider, ça c'est sûr, parce que il s'agit pas de voir ces conflits, il s'agit de les voir avec un œil national, dans l'intérêt français. Donc, il s'agit de trouver des alliés. Si on ne peut pas compter sur les États-Unis et sur la Grande-Bretagne, il faut trouver des alliés en Europe orientale et en Europe centrale de revers contre l'Allemagne. Alors par exemple, au sud de l'Allemagne, il y a la Tchécoslovaquie, qui a en plus le problème des Sudètes, une grande minorité allemande, donc donc qui se méfie de l'Allemagne. Il y a la Pologne à l'est de l'Allemagne, qui elle aussi a 1 million d'Allemands. Le fameux corridor de Danzig, il y a la Posnanie, la Haute-Silésie. Donc il y a quelques en tout 1 million d'Allemands dans ce pays et qui offre un petit peu une alliance console un peu les Français de la perte de l'alliance de la Russie, mais c'est pas la Pologne qui va remplacer la Russie, donc ce qui fait que il y a eu avec la destruction des empires une atomisation de l'Europe centrale, de l'Europe orientale, et qui renforce l'Allemagne. C'est en 1919, l'Allemagne est en situation potentielle, de force bien plus importante qu'en 1914. La France n'a plus son grand allié russe et elle ne peut plus compter que sur des confettis. Et sur le plan économique, l'Allemagne, elle pèsera évidemment beaucoup plus en Europe orientale, en Europe centrale. En ce qui concerne la Russie, Clémenceau, là on est en pleine révolution russe, Clémenceau, il n'est pas du tout favorable aux thèses nationalistes qui disent il faut intervenir en Russie, il faut aider les blancs, etc. et intervenir physiquement. Foch a dit il faut 700 000 hommes pour intervenir. On ne peut pas les trouver ces 700 000 hommes. C'est terminé. La France est exsangue, elle est épuisée, elle veut plus faire la guerre. Elle
a... Et en Russie encore plus, elle a pas un souvenir.
Oui, mais on n'est pas en guerre contre. En plus, on n'est pas en guerre contre les Russes. Les Russes font la révolution. Eh ben, c'est leur droit. Ils font ce qu'ils veulent. Après tout, c'est ce que pensent les petits corps expéditionnaires, parce qu'on envoie des corps expéditionnaires à Mourmansk, on les envoyait déjà dès 1917, et puis en Ukraine, occuper Sébastopol, occuper Kherson, occuper Odessa, etc. Ben, ces soldats, ils savent pas pourquoi ils sont là. Et ils ne veulent pas combattre. Ils veulent pas mourir en 19, 20, alors que la guerre est terminée, ou contre l'armée rouge. Enfin bon, il y a même des mutineries. Donc il va falloir ramener ces corps expéditionnaires, et Clémenceau comprend que il y a qu'une seule politique à faire face à la Russie bolchévique, c'est la stratégie du fil de fer barbelé, la stratégie de l'isolement du cordon sanitaire. Wilson, lui, aurait voulu inviter les bolcheviques, mais pas seulement, les blancs à Versailles pour tenter de réintégrer la Russie. Mais on voit qu'il n'avait pas, dans le jeu international, mais on voit qu'il n'avait pas compris que Lénine et le bolchevisme, c'était autre chose finalement il y avait quelque chose de nouveau. Finalement, Lénine et c'est comme ça que je commence le livre. Lénine et Wilson, ils sont les annonciateurs d'un monde nouveau, d'une grande révolution, une guerre qui a commencé comme une guerre nationale et qui se transforme en guerre idéologique en 1917, avec d'un côté la révélation de la puissance américaine avec ses objectifs mondialistes, et puis de l'autre côté la révolution bolchevique. Et ce qui est intéressant, c'est que on a l'impression en 19 que le monde, il a le choix dans ces deux révolutions, entre la révolution démocratique et libérale américaine et puis la révolution bolchevique, puis en fait ça sera ni l'un ni l'autre, ni Wilson ni Lénine.
Est-ce que Lénine fait peur? Il veut la révolution mondiale. Il espère que l'idéologie bolchevique et communiste impulsera l'Europe. Est-ce que c'est une peur dès ces années-là, dès le sortir de la guerre pour la France, ou finalement ils sont trop concentrés à essayer de s'entendre avec les Alliés pour régler un petit peu ces questions idéologiques?
Alors, la première peur de la France, c'est l'Allemagne. La première peur, c'est l'Allemagne. Et le rouge, la peur du rouge, viendra après, ou en plus, ou à côté. Mais la première peur, c'est l'Allemagne. Ensuite, la peur du communisme, oui, elle est très vive. Elle est très vive. Et même si la Russie n'est pas invitée au traité de paix, aux négociations, eh bien, elle plane. Il y a le spectre du communisme qui plane. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, Lloyd George, il veut, en mars 1919, il fait une véritable crise, il veut revenir sur tout ce qu'on a négocié vis-à-vis de l'Allemagne, il dit il faut tout alléger, il faut tout réviser, la France est trop gourmande, parce que lui, il ne parle pas de restituer les colonies, de restituer la flotte, c'est uniquement les demandes de la France, c'est pas les demandes de la Grande-Bretagne, bien évidemment. Alors, il faut tout réviser, et être moins ferme, être plus... Pourquoi ? Bon, mars 19, parce qu'il y a eu la révolution en Hongrie, il y a eu le régime soviétique en Hongrie qui s'est imposé, et il est persuadé que si on est trop dur avec l'Allemagne, il y aura la révolution bolchevique en Allemagne. D'ailleurs, il y a des mouvements révolutionnaires en Allemagne. Il y a eu l'écrasement des spartakistes en janvier, puis il y a eu pendant tout le printemps des soulèvements, des soviets dans telle ou telle ville, dans telle ou telle région, qui sont écrasés par l'armée, par les corps francs, etc. Et donc la perspective révolutionnaire, elle est possible en Allemagne. Et il faudrait pas que la Russie et l'Allemagne rentrent en coalescence ainsi et qu'il y ait une nouvelle guerre, qu'on soit obligé de recommencer une nouvelle guerre, cette fois-ci contre un ennemi idéologique et qui serait d'autant plus puissant, hein, puisqu'il ne connaîtrait pas de frontières et qu'il aurait des relais, y compris en France. Donc pourquoi donc mars 1919 on voit bien que la Russie et le communisme, la Russie n'est pas invitée, les bolcheviks sont pas invités, et pourtant la question du risque de basculement de l'Allemagne dans fait que on débat d'une possible atténuation des mesures du traité de Versailles. Un autre exemple, on a laissé à l'Allemagne une armée de 100 000 hommes. Mais les Français ne voulaient pas que l'Allemagne conserve une armée, parce que cette armée même réduite à 100 000 hommes, ce sera une armée d'officiers qui, le jour où l'Allemagne voudra rétablir une armée, hein, ce sera le cas en 1935 avec Hitler, eh bien cette armée de 100 000 hommes, eh bien ce sera une armée de cadres. Elle aura tous les cadres pour relancer une armée de conscription, hein, pour former des millions et des millions d'hommes. Maintenir une armée, c'était un risque. Et les députés français avaient tous fait pression sur Clémenceau. Tous, il y avait une unanimité pour que l'Allemagne n'ait plus d'armée. Et pourtant, on va lui maintenir une armée. Mais pourquoi ? Bah à cause du communisme, par la peur. Clémenceau va se défendre devant le Sénat au moment de la ratification du traité de Versailles en disant je ne veux pas qu'il y ait un deuxième pays communiste en Europe. Hein. Donc, il fallait laisser à l'Allemagne une armée pour pouvoir écraser son peuple en cas de soulèvement. Sauf que cette armée, on sait très bien à quoi elle servira. Ce sera une armée de cadres. On voit bien dans... Si on avait détruit le complexe militaro-industriel allemand, eh bien, l'histoire aurait pu être tout autre.
Il se passe des choses en Italie également ?
Ah oui, alors, parce que ça aussi, c'est un autre aspect. Là, on a parlé de la France vis-à-vis de la Révolution. Donc, on a l'impression vraiment qu'un ennemi en remplace un autre. Mais pour tous les États vaincus ou qui sortent de la guerre, la Révolution est une séduction. Hein, après toutes ces souffrances, après cette idée que c'est l'impérialisme qui a produit la guerre, etc., que certains se sont enrichis, cette aspiration à une société sans classe, ce phare qui s'est élevé du prolétariat qui s'est élevé à l'Est, fait que la Révolution, elle embrase la Bulgarie en 1918. Bon, elle est terrassée. Elle embrase la Hongrie en mars 1919. Ça va durer 100 jours. Elle embrase l'Italie en 1920. C'est le fameux Biennio Rosso, avec occupation des terres par les paysans, parce qu'il y a une structure agraire de grande propriété, la Tifundia, et les paysans vont occuper les terres, les ouvriers vont occuper les usines, et à un moment donné, l'État est complètement paralysé. Mais il n'y a pas eu de Lénine italien pour s'emparer du pouvoir. Non seulement il n'y a pas eu de Lénine italien, mais c'est même tout le contraire. Le Parti socialiste italien a tout fait pour ramener les paysans et les ouvriers au travail, et le syndicat, la CGT, a tout fait également pour éviter la révolution. Le thème, c'était, leur justification, c'était, nous ne sommes pas prêts, il faut plus de temps, nous n'avons pas la majorité, etc., etc. En fait, avec ces positions, ben, ils ont laissé passer le temps, et à un moment donné, il y a une démobilisation, et là, eh bien, arrive la contre-révolution, le fascisme, les squadristes, et partout. C'est pas seulement en Italie. Bien sûr, en Italie, ça va se traduire par le fascisme, qui est une contre-réaction musclée, mais pas seulement, qui est aussi un régime révolutionnaire, qui veut un homme nouveau dans une société nouvelle. Mais dans toute l'Europe, le communisme va servir, la peur du rouge, du communisme va servir d'épouvantail pour mettre en place des régimes autoritaires, des dictatures militaires, des monarchies autoritaires, mais bref. Il n'y a qu'une seule démocratie, finalement, dans tous ces empires qui ont éclaté, ces États qui ont ressuscité ou qui viennent de renaître, c'est la Tchécoslovaquie, une démocratie parlementaire, c'est le seul pays. Alors quand, en 18, la guerre se termine, on dit, ce sera la der des der, il y aura les États-Unis d'Europe, il y aura la démocratie partout, il y aura des républiques sœurs, ben voilà. En 21, l'Europe, les armes se taisent enfin en Europe, il y a eu autant de morts entre 18 et 21 qu'entre 14 et 18. Alors évidemment pas en France, hein, mais dans l'est de, surtout en Russie. Et la démocratie, on pensait qu'elle allait s'étendre partout. Ben en 21, c'est tout le contraire. Non, il n'y a que la Tchécoslovaquie qui se situe dans le champ démocratique. Donc c'est un ratage complet finalement toute cette histoire.
Et tant de petites puissances, de petits pays qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on rallume leur haine et leur rancune et qu'ils puissent régler leur compte un peu plus tard dans le siècle. Et est-ce qu'on peut dire que finalement c'est cet échec de la paix, si on peut parler d'échec de la paix et de la négociation, qui a provoqué le second conflit mondial? Ou les raisons sont plus vastes?
Oui, alors les raisons sont plus vastes. Bien sûr qu'il y a des éléments. C'est une paix qui est ratée, hein. Tout le monde. Ça c'est certain. Cette paix est ratée. Mais on lit trop souvent et on entend trop souvent qu'il y a un continuum entre 14 et entre 19 et 39. Et les choses sont un peu plus compliquées que cela. Les choses sont plus compliquées. D'abord, il y a la crise de 29. On va dire que la situation est tendue en Europe, notamment entre la France et l'Allemagne, jusqu'en 23-24. Et ensuite, tout s'apaise. Et d'ailleurs, le parti nazi, il fait même pas 3% des voix en 1928. Même pas 3% des voix en 28. Et pourtant, il va faire 6 millions... Il fait 32-35% des voix en 32. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux dates? C'est pas le traité de Versailles. Entre ces dates, c'est la crise de 29 qui a propulsé Hitler au pouvoir. Donc, vous voyez bien que la responsabilité du traité de Versailles, elle est peut-être en second. C'est d'abord la crise de 29 qui a amené Hitler et donc la volonté de guerre en Allemagne. Mais Hitler n'aurait pas pu triompher et n'aurait pas pu séduire un pays qui s'est embourbé dans la crise si il n'y avait pas cette immense frustration. Et si on n'avait pas menti aux Allemands? Car on a menti aux Allemands, et c'est un mensonge qui a coûté cher à l'Allemagne, qui a coûté cher à l'Europe, qui a coûté cher à l'humanité. Parce que les militaires allemands n'ont jamais dit qu'ils avaient perdu la guerre. Ils ont toujours dit, nous, on n'en a pas perdu la guerre. On a juste demandé la paix sur la base des 14 points Wilson, parce qu'on en avait assez de la guerre. On voulait un match nul. On avait gagné à l'Est contre la Russie, et on avait fait un match nul à l'Ouest. Et après, voilà la paix qu'on nous impose, une paix de capitulation. C'est un scandale, nous n'avons pas perdu la guerre. Et les Allemands sont persuadés, ils n'ont pas perdu la guerre. Donc cette paix, elle est inacceptable. Les réparations, c'est inacceptable. La responsabilité de la guerre, c'est inacceptable. Les mutilations territoriales, c'est inacceptable. Ah oui, hein, on lit dans des fois même dans sous la plume d'historiens que l'Allemagne a été mutilée, elle a perdu plus de 10% de sa population, 13% de son territoire, blabla. Mais qu'est-ce qu'elle a perdu? Elle a perdu l'Alsace-Lorraine. Hein, est-ce que c'était un territoire allemand? Fallait peut-être demander l'avis aux Alsaciens Lorrains. D'ailleurs, on a vu une forme de plébiscite de retour à la France en 1919 de la part de la population. C'est des kermesses à n'en plus finir, etc. Elle a perdu des territoires danois qui sont revenus au Danemark. Est-ce que c'est injuste que des territoires danois qui avaient été pris par Bismarck en 1864 reviennent au Danemark? Elle a perdu des territoires qui étaient polonais. Et qui sont revenus à la Pologne parce qu'on a pris des territoires, la Pologne a ressuscité avec des territoires qui étaient à la Russie, à l'Autriche et à l'Allemagne. Et cette paix que l'on dit un diktat, je suis pas là pour défendre la paix de Versailles, mais on l'accable tellement pour dire qu'elle est responsable de la Seconde Guerre mondiale, on dit que c'est un diktat, c'est-à-dire une paix imposée. Eh bien, il n'y a pas une paix jusque-là pour laquelle on a autant demandé l'avis des populations concernées. Cinq référendums. Oui, on demande pas l'avis au gouvernement allemand, mais on va organiser 5 référendums dans les régions contestées pour savoir si oui ou non vous voulez être allemand ou devenir voilà. Par exemple, en Pologne, la région de Marienwerder, Allenstein, les populations ont voté et ils ont voté pour être rattachés, pour être allemands et rattachés à la Prusse orientale. Donc ils ne sont pas devenus polonais. Voilà.
Il y avait une vraie volonté en fait d'avoir l'adhésion des populations.
Mais oui, c'était qu'on était dans une époque, c'était plus l'époque où on annexait en rond, et puis voilà, on avait gagné la guerre, on annexait, et puis on avait gagné la guerre, on t'imposait un tribut. Non, c'est plus comme ça. Il y a les peuples qui sont entrés, qui ont fait irruption. On est à l'âge démocratique, et donc il faut tenir compte de la vie des peuples. Donc référendum en Pologne, référendum en Haute-Silésie, référendum dans la Sarre, référendum Pen et Malmedy, c'est une succession de référendums pour établir la paix la plus juste. Mais cette paix ne sera jamais acceptée parce que les Allemands n'ont pas perdu la guerre. Mais alors s'ils n'ont pas perdu la guerre, qu'ils se retrouvent avec une paix comme ça, c'est qu'ils ont été trahis. Donc il y a le thème du coup de poignard dans le dos, etc., de ceux qui ont fait la révolution, et donc les juifs, les socialistes, les démocrates, etc., etc. Donc Hitler saura récupérer tout ça, toute cette frustration, mais c'est un mensonge, ça n'a rien à voir avec le traité de Versailles.
Et ceci est une autre histoire.
Eh oui.
Merci beaucoup, Jean-Yves Le Naour, de nous avoir parlé de cette période qui est souvent, on a l'habitude, qu'on connaît peut-être un peu moins. Et puis, comme vous l'avez bien expliqué, on a beaucoup d'idées, beaucoup de préjugés. On érige en symbole le traité de Versailles, peut-être parce que, par facilité, au lieu de chercher à comprendre ce qui s'est réellement passé. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Je rappelle le titre de cet ouvrage, donc paru aux éditions Perrin, 1919-1921, Sortir de la guerre. Je vous remercie encore, chers auditeurs, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.